Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, lancement ce mardi au camp Tchatchi de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Initiateur du projet, le président Félix Tshisekedi Tshilombo affirme que le choix de la ville de Kinshasa est motivé par le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile. Au Sud Kivu, la dynamique « Un autre Congo est possible » s'insurge contre la politisation ahurissante des enfants à l'âge scolaire. Cette organisation constate non sans amertume que des acteurs politiques, candidats aux prochaines élections, distribuent quotidiennement des fournitures scolaires frappées, des effigies et drapeaux de leur parti. Notre invitée, c'est Nathalie Nakabanda. Cette professeure à l'Université catholique de Bukavu revient sur le symposium international Christophe Munziroy tenu au collège Al-Fadjiri à propos des conflits politico-juridiques issus des contrats miniers. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la santé. Le président de la République a lancé ce mardi la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans la ville de Kinshasa dans le cadre de la couverture des santé universelle. C'était à l'hôpital général du camp Tshatshi. Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé à l'occasion que la couverture santé universelle est un pilier général du programme quinquennal du gouvernement. Le choix de la ville de Kinshasa est motivé, selon lui, par le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile. Il assure que ce programme s'étendra aux autres provinces du pays. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinch.
Je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année.
Les médecins et techniciens vétérinaires de la RDC sont actuellement en grève depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Ils s'insurgent contre le non-respect par le gouvernement central des engagements qui ont été pris à Biboua 1, 2 et 3. C'est confiant à la presse ce mardi à Kinshasa. Le coordonnateur de leur syndicat craint pour la santé des Congolais suite au manque de contrôle et de surveillance des maladies animales. Docteur Jean-Benoît Miziele, Parawa, met le gouvernement devant ses responsabilités. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Tous les services vétérinaires spécialisés délivrant les autorisations d'importation et exportation, les services de quarantaine animale et halieutique, les services vétérinaires au poste frontalier, aéroport, port de Matadi, Kasumbalesa, les services provinciaux d'inspection, de taxation et dépôts internes de transit, les cliniques, les abattoirs, les pharmacies, les laboratoires et officines vétérinaires sont fermés et donc interdits de tout fonctionnement jusqu'à la conclusion et exécution intégrale par le gouvernement de la République de toutes nos revendications. Pendant ces temps de grève, les professionnels de santé que nous sommes déclinons toute responsabilité face aux dangers et risques qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques dans l'intérêt de protéger la santé de l'homme. Tout importateur, tout consommateur de la viande et sous-produits de la viande, du lait et sous-produits du lait, sont aussi avertis car l'expertise vétérinaire de ces denrées alimentaires ne sera pas assurée durant cette période de grève.
On enchaîne avec le Sud Kivu où la dynamique « Un autre Congo est possible » s'insurge contre ce qu'elle qualifie de politisation ahurissante des enfants à l'âge scolaire. Cette organisation dit constater non sans amertume que de nombreux acteurs politiques candidats aux prochaines élections distribuent des fournitures scolaires frappées de leurs effigies, des insignes et des drapelets de leur parti politique. Cette structure appelle par conséquent le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à interdire au plus vite ces objets dans les milieux scolaires. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejua Kabedi.
La dynamique « Un autre Congo est possible » s'exprime à travers un communiqué de presse publié le lundi 4 septembre 2023. Pour la DINACOP, l'école doit demeurer le lieu par excellence de la formation de nos enfants et non un endroit de campagne politique avilissante. Les enfants doivent être protégés comme le veulent les instruments juridiques internationaux que ceux de la RDC. Ainsi, cette structure invite-t-elle le ministre de l'EPST à prendre dans l'urgence des mesures qui s'imposent. C'est en enjoignant aux responsables d'école d'interdire la présence au sein de leurs établissements respectifs de tout effet scolaire aux couleurs et images politiques des candidats. Aux parents de rejeter avec fierté tous ces cadeaux teintés d'une marque d'humiliation qu'on est en train de leur offrir. Cette pratique avilissante est à décourager avec force. On ne devrait pas profiter des conditions de la population pour abuser de nos enfants en leur imposant des pratiques indignes à caractère politique, conclut Maître Jean-Dominique Kimengele, coordonnateur national de la DINACOP. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans la province de Maïndombé, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu hier dans les territoires de Niouki. À la base, les enseignants réclament leur salaire de 4 mois. Face à cette grogne, l'Action pour la défense des droits humains appelle le gouvernement à la rescousse. À Bandundouville, Irène Mboma.
Si la rentrée scolaire est effective dans d'autres coins du pays, cela n'est pas le cas pour les écoles de la sous-division de Koutouin, précisément de la cité de Niouki et ses environs de la province du Maïndombé. Ici, aucune école n'a ouvert ses portes depuis hier lundi, premier jour de cette rentrée des classes. Les enseignants qui acquisent 4 mois d'impayement de leur salaire ne jurent que sur leur argent avant de reprendre le chemin de l'école. Giscard Mboukela est le président de la synergie syndicale des enseignants de Koutouin.
Ont boycotté la rentrée. Ils sont en retard de 4 mois de salaire. Le mois de mai, juin, juillet et août, jusqu'aujourd'hui, n'est pas payé à Niouki. Les enseignants sont en mouvement de grève. Aucune école n'a ouvert sa porte. Dès que l'appel du mois de mai, juin, juillet, août sera effective, alors on va aussi reprendre avec les activités.
Pour sa part, Fidel Pamuna Oli Zorongo, coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADH, demande au gouvernement congolais de résoudre les problèmes des enseignants afin que les calendriers scolaires des enfants ne soient pas perturbés. Il faut signaler qu'hier lundi, ces enseignants ont organisé une marche jusqu'à la sous-division de l'EPST à Niouki, où ils ont déposé leur mémorandum entre les mains du sous-préfet intérimaire qui a promis de faire les rapports acquis des droits. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le début ce mardi à Goma, au Nord Kivu, du procès des 2 officiers supérieurs de la garde républicaine poursuivis pour 3 chefs d'accusation, dont les crimes contre l'humanité par meurtre. Les prévenus sont assistés d'une 10aine d'avocats et des défenseurs judiciaires. La délégation interministérielle venue de Kinshasa a assisté au procès. Le compte rendu de la première audience, avec vous, Gabriel Ouamenia.
C'est sous une pluie battante que les 2 principaux prévenus, à en croire l'organe d'accusation, et 4 autres soldats de 2e classe ont été présentés à la cour militaire par l'auditeur supérieur. Devant la barre et en présence de la délégation interministérielle conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, les commandants de la garde républicaine, le colonel Mike Mikombe, et les commandants du 182e régiment, le lieutenant-colonel Bawili Mbolitine Donatien, considérés comme les cerveaux de la répression sanglante du 30 août dernier, sont apparus visiblement calmes et phlegmatiques devant les juges. Dans ce libellé de prévention, l'auditeur supérieur a retenu contre tous les 6 prévenus 3 principaux chefs d'accusation. Il s'agit notamment des infractions des crimes contre l'humanité par meurtre, la destruction méchante et l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la discipline militaire. Dans la salle d'audience, un autre collectif d'avocats s'est constitué constituer partie civile en faveur d'une dizaine de victimes de la dernière répression sanglante présumée qui a fait au total 56 morts et une centaine de blessés selon les derniers bilans fournis par l'auditorat militaire. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
La MONUSCO doit accélérer son retrait de la RDC. C'est le souhait du gouvernement exprimé dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er septembre par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Dans cette correspondance de 6 pages, Christophe Lutundula Pala indique que le gouvernement congolais réitère l'option d'accélérer le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO dont le plan de transition a été adopté en 2021. Explication d'Esther Ndalafina.
Le gouvernement congolais rappelle les circonstances de l'avènement de la mission onusienne en RDC, les différentes interventions de cette dernière, dont les événements qui se sont produits dans le pays. Il évoque le récent rapport numéro S-2023-574 au Conseil de sécurité du 2 août 2023, dans lequel M. Antonio Guterres a dressé un bilan désastreux de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC après 25 ans de présence continue de l'ONU dans ce pays, à travers la MONUC puis la MONUSCO. L'évaluation du secrétaire général sur les 12 derniers mois, dont 2022-2023, est sans équivoque. La situation humanitaire s'est considérablement détériorée. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés de force, 28% du Nord Kivu, 39% en Ituri. Le nombre d'actes de violence sexuelle commis contre les enfants et les femmes qui a doublé entre 2021 et 2022. Les tensions régionales, la résurgence du M23 au Nord Kivu où les rebelles ont mis des administrations parallèles et procèdent aux arrestations arbitraires et exécutions sommaires. Le gouvernement estime que la MONUSCO a été impuissante et n'a pas pu assurer la protection de la population civile, une des principales missions statutaires.
Esther Ndalafina sur Radio Okapi. Et puis, 5 personnes ont été interpellées hier et ce mardi matin, parmi lesquelles le chef de la chefferie des loups dans le territoire d'Arou, au nord de la ville de Bounia, dans le cadre d'une enquête menée par la cour militaire de l'Ituri. L'auditeur général des FARDC qui séjourne à Arou leur reproche d'être des acteurs principaux d'une milice en gestation dans cette entité coutumière où un conflit de limite entre les villages de Nyatcha et Adravo a coûté la vie à une dizaine de personnes, dont 4 policiers et 3 militaires. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Les 18 et 19 août dernier, les habitants des villages Nyatcha et Adovo dans la chefferie du Loup se sont affrontés autour d'une querelle concernant une zone de limitation qui sépare ces deux entités. Ces tensions ont causé la mort de 5 personnes. Ces échauffourées se sont poursuivies le 21 dans une localité voisine de Adovo où 4 policiers et 3 militaires qui voulaient intervenir pour calmer la situation ont trouvé la mort. Leurs armes de type AK-47 avaient été également récupérées par les belligérants. Ces derniers avaient aussi pillé de biens dont des chèvres, motos, panneaux solaires, des matelas appartenant aux populations. L'avocat général militaire qui conduit une équipe d'enquêteurs qui tente de voir clair sur la création d'une milice armée en gestation dans cette entité dit avoir interpellé à ce stade 5 personnes pour participation à un mouvement insurrectionnel. Selon la même source, d'autres personnes recherchées par la justice seraient en fuite vers Kambala sur la route Bagui, Djougou, Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis l'Union européenne développe en ce moment un programme d'appui à la justice en RDC à hauteur de 35 millions d'euros. Annonce faite à la presse hier lundi par le commissaire européen en charge de la justice en mission ici à Kinshasa. Didier Reynders ajoute que 14 millions d'euros sont également disponibilisés par l'Union européenne pour pouvoir soutenir le processus électoral en RDC. Pendant son séjour, Didier Reynders va échanger également avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les comptes rendus de Fulbert Balolagué.
Au chapitre de la justice, Didier Reynders soutient les efforts fournis dans le recrutement des magistrats, mais un autre point est en vue.
C'est l'idée d'organiser l'année prochaine, premier semestre, une conférence internationale à Kinshasa sur la justice internationale, sur la justice transitionnelle, parce que la République démocratique du Congo travaille très bien avec la Cour pénale depuis longtemps, depuis 2005. Certains cas ont été vers la haie, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur le rôle d'une justice plus régionale à l'échelon de l'Afrique ou d'une sous-région en la matière frontières.
Au sujet des élections, il est tôt d'émettre un avis sur les processus, mais le plus important reste la participation de tous avec des fichiers électoraux crédibles.
Le souci, c'est réellement de faire en sorte que les fichiers électoraux soient les plus complets possibles, les plus transparents. Et puis, c'est le processus alors qui va suivre. Donc, c'est trop tôt aujourd'hui pour porter une appréciation. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour collecter correctement les données en ce qui concerne le fichier électoral. Mais je verrai effectivement avec la CENI jusqu'où on peut aller. Peut-être aussi la manière dont la CENI peut informer les partenaires internationaux de l'état d'avancement du processus.
Didier Reinders va aussi se rendre à Lubumbashi pour aborder la problématique de la responsabilité sociale avec des chefs d'entreprise du secteur minier et agro-industriel.
Actualité internationale.
Le président de la transition au Gabon, le général Oligui Nguema, a reçu ce mardi matin à Libreville le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, qui a été désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur du processus politique après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. La CEAC a chargé le président de la République centrafricaine d'engager au plus vite des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
L'invité.
Notre invité, c'est Nathalie Nakabanda. Cette professeure à l'Université catholique de Bukavu revient sur les symposiums internationaux Christophe Muziro Mwenengabo tenus au collège Alpha Djiri à propos des conflits politico-juridiques autour des contrats miniers. Elle est interviewée par Emmanuel Elamejo Kabedi.
Professeur Nathalie Nakabanda, bonjour.
Bonjour, Bab.
Vous êtes intervenu ici au symposium international sur Monseigneur Muziro Christophe. Sur quoi d'abord avait porté votre exposé?
Mon exposé avait porté sur les contrats miniers et les conflits politico-juridiques. En fait, il consistait à montrer comment le Congo conclut des contrats et malheureusement, ces contrats deviennent source de conflits. Un conflit à la fois politique et un conflit juridique.
Et en quoi cela a de lien avec le travail légué par Mgr Christophe Muziro à la sous-région?
Très bien. Mgr Muziro est une personne qui était au service du peuple. C'était un serviteur, Muzé. Alors, il a milité pour le bien-être du peuple congolais. Et les contrats qui sont conclus par la RDC doivent être des contrats qui concourent à la réalisation de cet intérêt général qu'a soutenu longtemps Mgr Muziro en vue de la dignité, du bien-être et du respect des droits humains du peuple congolais.
Et pour revenir à votre exposé, quelles recommandations vous avez formulées pour peut-être que les contrats signés ne puissent plus continuer à générer des conflits?
Très bien. La première chose pour moi, c'est d'abord de respecter la loi. Nous avons un code minier, on a un règlement minier. Ces textes sont clairs et on doit les respecter. Et toute personne, nul n'est au-dessus de la loi, y compris les dirigeants congolais. Ils sont donc dans l'obligation également de respecter prioritairement la loi. Deuxièmement, c'est de mettre l'homme au centre, l'intérêt au centre de l'action du politique. Devra être guidé par la personne humaine dans sa dignité, dans son développement intégral. Et troisièmement, c'est d'éviter des intérêts égoïstes. Les richesses du Congo n'appartiennent pas à une minorité. Les richesses du Congo appartiennent à tout le monde, à nous tous, vous et moi, et toute autre personne. Et le gouvernant doit travailler dans cet aspect-là, dans cet objectif déterminé déjà par Mgr Muziro, au risque pour les gouvernants de devenir des nouveaux colonisateurs.
Vous pensez que cela va aboutir à la paix et à la conciliation dans la région de Grand Lac?
Certainement que si cela est observé, il est possible qu'on puisse progressivement, petit à petit, arriver à toucher le cœur même du problème de conflit. Parce que si l'intérêt général est respecté, si la loi est respectée, on n'aura pas de conflit. S'il y a la bonne gouvernance, il n'y aura pas de conflit politique, il n'y aura pas de conflit juridique. Il y a donc besoin à ce que nous puissions conjuguer les efforts, que chacun apporte sa contribution là-dessus.
En définitive, avec ce symposium qui vient de se clôturer, qu'est-ce qu'on peut retenir du professeur Nathalie?
Je peux dire humblement que l'esprit Mouzirois a été là. Monseigneur Mouzirois a été présent. Les plusieurs manifestations de sa présence au ciel se sont fait remarquer. Deuxièmement, nous avons mis en place la fondation Mze Mouzirois, Moudoumou, Wawanyonge, Wawazé, Wawenyekuteso. Cette fondation va permettre de mettre la main à la poche pour donner de notre argent, de notre avoir, de notre force à Monseigneur Mouzirois pour pérenniser l'action d'aider, l'action de participer au relèvement des plus vulnérables. Nous avons mis également en place un centre de réconciliation, un centre de paix, Monseigneur Mouzirois. Là-dedans, il y aura des études qui seront menées. Il y aura des recherches qui seront menées en vue de définir des nouvelles stratégies, des nouveaux mécanismes à mettre en place au nom de la paix, de la réconciliation dans la région du Grand Lac. Monseigneur Mouzirois, c'est un homme du Grand Lac, du monde, de l'Afrique tout entière.
Donc c'était important, vraiment, ce symposium en ce moment ici à Bukavu.
Plus qu'important, c'était nécessaire, indispensable, c'était capital qu'on puisse le faire.
Professeur Nathalie Nakabanda, merci.
Je vous en prie, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Nathalie Nakabanda, professeure à l'Université catholique de Bukavu, interviewée par Emmanuel Elamajoua Kabedie. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Rungomouchinch.